France Inter. Marion Lourd, le téléphone sonne.
Deux fois plus d'appels au SAMU et de passages aux urgences pour suspicion de Covid en une semaine. Si certains établissements s'étaient apaisés dans la torpeur de l'été, voilà de quoi les réveiller. La quatrième vague risque bien de déferler avec le variant Delta. Elle est déjà là, et bien là à la Martinique par exemple, mais ailleurs aussi. Pour le moment, un peu moins violente que les précédentes, mais l'eau monte de plus en plus vite. En France, 7840 personnes hospitalisées pour Covid à l'hôpital, 1232 en soins critiques. Et ce brusque afflux de patients arrive au plus mauvais moment. Vacances, lits fermés, des soignants en congé qui pensaient enfin se reposer et d'autres qui sont partis dans des centres pour vacciner. Au fond, cette vague aggrave un malaise dans l'hôpital qui était peut-être déjà là. Certains avaient déjà du mal à surnager, conditions de travail trop dures, crise des vocations, services dégradés, problèmes non résolus, semble-t-il, par le Ségur de la Santé. Alors comment ça va à l'hôpital? Quels sont les ressorts de la crise actuelle et quels moyens d'en sortir? Question posée ce soir sur France Inter, c'est le Téléphone Sonne, c'est votre émission, c'est parti.
Le Téléphone Sonne, 01 45 24 7000.
Et on commence cette émission avec Jackie, merci d'avoir appelé France Inter, c'est à vous.
Bonsoir France Inter.
Bonsoir.
Et merci de m'avoir rappelé. D'autant plus que c'est très difficile pour moi aujourd'hui de téléphoner. Je vais exposer en quelques secondes ma situation. Nous sommes dans un petit village dans le Languedoc-Roussillon, entre Nîmes et Montpellier.
À qui côté s'appelle de comment, Sommières. Dites-nous.
Voilà, il s'appelle Junas. Mm-hmm. Et nous sommes depuis 18 jours, nous sommes privés de téléphone, d'internet, de tout moyen de communication, et en plus, nous sommes en zone blanche, ce qui fait que mon téléphone portable passe très mal. Là, je suis au premier étage de ma maison pour pouvoir avoir un petit peu de réseau pour vous appeler, France Inter. Mmh. Alors voilà, nous sommes dans une situation très critique concernant ces nouvelles technologies, et on s'aperçoit que l'ensemble du service hospitalier, des services de soins, est basé, moi qui ai fait un accident vasculaire cérébral il y a 4 ans, je n'ai plus accès au CHU de Nîmes, je n'ai plus accès au service de soins.
À cause de votre téléphone ou de manière générale?
Oui, mais je n'ai aucun contact. Et c'est bien là l'objet c'est-à-dire qu'on mise beaucoup de choses sur les nouvelles technologies et on paupérise la situation des infirmiers, du service public, on supprime des postes, il y a de moins en moins de services accessibles si on n'a pas ces nouvelles technologies. Et lorsqu'elle tombe en panne, comme c'est le cas en ce moment à Junas, où toute la population est sur les dents, parce qu'on n'a plus accès aux services, pas de carte bleue, pas de poste, pas de rien. Et donc, nous avons un problème, et ce problème, je pense qu'il est indispensable de le mettre sur la table pour le résoudre et de remettre en place des services publics pour la population, parce que cette Startup Nation... s'il y a une panne et on voit que les attaques informatiques, les virus, et de plus en plus ça va être un support d'influence pour les grandes puissances, on base les sociétés sur ces nouvelles technologies qui ne répondent plus aux besoins de la population. Et moi je peux vous dire que là je suis au premier étage pour avoir un petit peu de réseau et que j'essaye de vous appeler pour vous alerter et vous demander, enfin... à Monsieur Macron, et puis pas que Monsieur Macron, mais tous ceux qui pensent que la technologie, ça va tout résoudre, eh bien non, que les services publics, que ce qu'on a eu en 1936 avec la sécurité sociale, avec toutes ces choses qu'on a acquises, on est en train de les perdre. Dans des chimères, voilà.
Merci.
Aujourd'hui, on a une panne et on n'a plus rien.
Merci pour votre témoignage, Jackie, pour vous répondre ce soir à France Inter en studio avec nous. Denis Bétan, dirigeant de la CGT Santé Action Sociale, bonsoir.
Bonsoir.
Et à distance, Fabrice Leburg, directeur des centres hospitaliers de Saint-Onge et de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime et représentant national du Syncas CFDT, bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Emmanuel Séris, chef de service des urgences des hôpitaux de Sarreguemines Beach, ça c'est en Moselle, et porte-parole et délégué Grand Est de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je vais peut-être commencer par vous poser la question à vous, Emmanuel Séris. Est-ce qu'effectivement l'accès à l'hôpital peut être difficile, y compris le lien par téléphone, tout simplement, pour ceux qui sont dans des zones mal couvertes?
Parfaitement, mais même en dehors de zones mal couvertes, on a pu constater la panne monumentale qu'il y a eu au niveau du réseau Orange et qui a occasionné des dégâts considérables avec du renoncement aux soins, voire des retards de prise en charge, donc encore tout récemment. Je pense également, quand j'entends les propos de monsieur, ça fait vraiment écho à quelque chose qui, à titre personnel, en tant que médecin proche des patients sur le terrain, me révolte, c'est... La généralisation que l'on fait de la télémédecine, qui pour moi et pour une bonne partie des professionnels de santé qui ont à cœur de pratiquer leur art de manière correcte et adaptée, n'est absolument pas une solution, mais c'est quelque chose de dégradé en cas de d'incapacité effectivement à avoir recours à un médecin, soit du fait des effectifs, soit en cas de désorganisation du système de santé, comme on a pu le voir lors de la pandémie. Donc effectivement, je pense que monsieur a tout à fait raison d'alerter sur l'indispensable. Il faut vraiment qu'on reste tout à fait conscient qu'il faut qu'il y ait des services publics de proximité.
Physique.
Mais tout à fait, tout à fait, et une présence physique. On n'examine pas un patient en télémédecine. Un patient, ça se sent, ça se touche, ça se regarde marcher. Et on n'a absolument pas la même capacité de diagnostic en télémédecine, ça reste complètement une solution dégradée.
Et en même temps, la téléconsultation, ça permet un peu de désengorger les établissements aussi, non ?
Alors c'est complètement artificiel, c'est-à-dire que ça ne dispensera jamais d'un réel examen clinique. Il peut y avoir des retards du diagnostic, il peut y avoir des erreurs diagnostiques. Je pense que c'est réellement un piège pour les professionnels de santé qui s'exposent à des erreurs diagnostiques. Et c'est aussi un piège pour les patients qui peuvent peut-être s'imaginer qu'on aura une réponse plus rapide. Et en réalité, c'est une réponse qui est partielle et qui reste, à mon sens, vraiment extrêmement dégradée. C'est pas du tout du vrai soin, c'est pas un diagnostic étayé comme ça doit l'être.
Fabrice Leburg, vous dirigez les centres hospitaliers de Saint-Onge et de Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que vous observez qu'effectivement, certains patients peuvent avoir du mal à vous joindre et que la présence physique d'un établissement de proximité reste indispensable ?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on a souvent la téléconsultation, le télésuivi, les systèmes numériques sont faits pour faire face à une difficulté dans l'offre de soins. En réalité, ça fonctionne que si c'est complémentaire d'une offre de soins existante et ça ne doit pas remplacer quelque chose. Donc en fait, si vous voulez, le problème, et là où Jackie a parfaitement raison, c'est que c'est souvent les mêmes territoires qui ont à la fois des problèmes de numérique, c'est-à-dire de tuyaux qui ne fonctionnent pas ou de zones blanches, de médecins généralistes qui ne sont plus présents dans ces territoires, en particulier les territoires ruraux, et puis les petits hôpitaux qui sont le plus en difficulté aussi pour attirer des médecins et qui se démédicalisent avec aussi des personnels qui sont de moins en moins stables, qui d'ailleurs ne sont pas toujours en capacité d'utiliser au mieux les techniques numériques qui permettent justement une bonne prise en charge. Quand vous avez dans un service d'urgence ce qu'on appelle le télé-AVC, qui permet en fait à un urgentiste de correspondre à un neurologue de garde dans un établissement plus puissant ou dans un CHU pour traiter l'AVC, dont on parlait Jackie tout à l'heure, eh ben cet urgentiste saura le faire et sera parfaitement à même d'utiliser ces techniques de téléconsultation, de télé-expertise avec le neurologue qui est à l'autre bout de la machine. Si vous avez quelqu'un qui passe dans l'hôpital, qui ne connaît pas le système d'information de l'établissement, qui ne connaît pas cette procédure, en réalité, il y a il y a une grande chance que l'équipement ne soit pas utilisé et qu'on ait un retard à la prise en charge, dans la prise en charge de l'AVC, au moment où on va pouvoir décider, oui ou non, de faire la thrombolyse sur place aux urgences pour éviter un transfert secondaire qui fera perdre des cellules du cerveau du patient. Donc on voit bien qu'en fait, ce sont les mêmes territoires en fait qui ont tous les désavantages, entre guillemets. Ils ont un problème de système d'information, ils ont un problème d'accès au numérique et à la fibre, et ils ont aussi un problème simplement de démographie médicale, aussi bien en ville qu'à l'hôpital.
Denis Bétan, c'est ce que vous observez vous aussi à la CGT ?
Oui, tout à fait. Au niveau de la démographie dans les régions, c'est complètement inégalitaire. Il y a des régions qui sont normalement dotées, il y a largement des régions, surtout dans les campagnes, qui sont largement sous-dotées. Et ça a été expliqué, tous les services publics, la défense des services publics est importante parce que non seulement ça permet à tout chacun de pouvoir accéder, mais je crois que dans l'exemple qui a été donné, ne pas pouvoir avoir accès aux soins et ne pas pouvoir accès à l'hôpital, c'est ne pas pouvoir avoir accès à l'urgence quand on en a besoin. Et ça, c'est complètement quelque chose qui est inacceptable à notre époque. Les moyens devraient être donnés. Il faut rappeler que le soin, c'est de l'humain. Et ceux qui ont besoin des soins, c'est la population. Et ceux qui soignent, c'est l'humain. Et là, on voit toutes les répercussions par rapport aux différentes structures qui ont été menées des différentes lois des dernières années. Alors là, c'est la santé, mais on peut parler des autres services publics, la poste notamment et tout ça, où il y a des régions qui sont complètement laissées à l'abandon. Dans le soin, ça a des conséquences complètement directes dans l'impact de la santé. Et là, on voit bien que dans l'explication de monsieur, il y a une critique, il y a une peur de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est quand on n'a pas les possibilités de pouvoir accueillir ces patients dans les bonnes conditions, parce qu'on est en pénurie d'effectifs, parce qu'on est en pénurie de moyens, et notamment la crise sanitaire, la crise du Covid l'a mis en exergue. Il faut rappeler que dans les services publics, la crise des urgences, notamment, elle a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis longtemps, les personnels disent qu'on n'a pas les moyens en effectif, on n'a pas les moyens en matériel pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Il y a une grève des urgences qui avait commencé en 2019, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est simplement ça a mis en exergue l'absence d'effectifs, l'absence de moyens et les dysfonctionnements dans les hôpitaux. Et là, on le voit, c'est un lien direct avec la population, et j'insiste sur le fait que le soin ou l'accompagnement, c'est de l'humain, alors que ce soit pour le sanitaire, que ce soit pour le médico-social, pour les EHPAD, ou le social, parce que la santé de tout le monde, elle est garantie par les services qu'on met en place pour la garantir.
Emmanuel Séris, Denis Bétan de la CGT parlait à l'instant de la question des urgences. Effectivement, on a l'impression, quand on lit la presse en tout cas, de voir que plusieurs services d'urgence en France sont fermés en ce moment, pour l'été, ou alors qu'ils ferment pendant la nuit. Vous êtes à la MUF et vous travaillez à Sarreguemines Beach en Moselle. Est-ce que dans votre hôpital, là où vous êtes, vous observez que on ferme les urgences, par exemple, la nuit ou à certaines périodes de l'été? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de manière un peu plus fréquente cette année en France au niveau de la MUF?
Alors, dans mon service, ça n'est pas le cas. Par contre, parce que nous n'avons pas de problème d'effectif. Par contre, sur l'ensemble du territoire français, c'est un été qui est cataclysmique. On est dans une crise sanitaire majeure qui n'est pas liée à la pandémie. Qui est lié effectivement, comme disait Monsieur Bétan, à une crise de l'hôpital qui date de bien avant. Nous sommes en grève depuis plus de 2 ans et le Ségur de la Santé...
Tout en travaillant, je précise.
Bien entendu, parce qu'effectivement, quand on a une mission de service public, notre grève se manifeste, enfin c'est une manifestation, ou alors il s'agit de porter un brassard et puis d'informer éventuellement la population. Mais effectivement, nous n'avons pas d'action de grève à titre, par exemple, de blocage de service ou d'arrêt de soins, bien entendu. Mais effectivement, c'est une action qu'on poursuit depuis des années pour dénoncer le manque de moyens, pour dénoncer le déshabillage total du territoire avec l'inégalité d'accès aux soins qui est criante depuis des années, qui a été encore exacerbée par la loi HPST, qui a complètement déshabillé les
c'est
hôpitaux.
C'est hôpital santé territoire, hein, c'est ça?
Tout à fait, mais en fait c'était une logique néolibérale qui commençait déjà depuis une quinzaine d'années, qui a vraiment... était une logique active politique de sape de l'hôpital public et qui aboutit maintenant à une crise sanitaire qui est majeure avec une dynamique motivationnelle qui est complètement brisée chez les soignants. Effectivement, on voit les conséquences cet été, mais c'est quelque chose qui date de bien avant. Il y a eu des fermetures de colonnes, enfin des arrêts de financement de colonnes de garde par les ARS qui faisaient que dans les centres hospitaliers de moyenne envergure, on se retrouvait avec des activités qui n'étaient plus financées. Donc en fait, on avait déjà activement un choix de centralisation des soins et d'accès aux soins. Et là, ça devient de plus en plus criant. C'est-à-dire que on voit encore des déclarations dans la presse qui majorent encore cette tendance pour essayer de centraliser l'accès aux soins vers les gros centres. Et je pense que c'est une course en avant qui est vraiment très délétère. Il faut qu'on se mobilise de manière collective et non pas en faisant dissidence et en essayant, enfin, que les gros mangent les petits, ça n'a aucun sens. Il faut que l'hôpital public dans son ensemble demande des moyens et une réelle action d'attractivité, un choc d'attractivité pour l'hôpital public, c'est indispensable.
Ouais, on va en reparler évidemment. Fabrice Leburg, vous dirigez des hôpitaux. Est-ce que malgré tout, alors Emmanuel Séris disait la crise date d'avant la Covid, est-ce que malgré tout vous voyez que vos services recommencent à se remplir et risquent éventuellement d'être submergés par cette vague liée au variant Delta?
Pas submergé, on pourra pas. D'abord, c'est un peu l'honneur du service public de fonctionner malgré tout et de fonctionner 24 heures sur 24. Les fragilités se manifestent par cette impossibilité à tenir ce 24 sur 24. Quand vous avez, comme je le disais tout à l'heure, dans les plus petites structures, des services d'urgence qui reposent pour 2/3 de leur fonctionnement sur des personnels non stables qui viennent pour 24 heures, vous avez des risques de rupture de la continuité. Ce qui se passe cet été, plus encore que les autres étés, parce que c'est vrai que les urgences sont à la pointe de la crise de l'hôpital public, parce que c'est aussi là où, finalement, cette contrainte de continuité s'exerce de manière majeure, que les urgences accueillent en effet tout le monde, accueillent aussi parfois la permanence des soins ambulatoires qui a disparu sur certains territoires, en particulier les territoires dont parlait tout à l'heure Jackie, les territoires ruraux. Dans les grandes villes, il y a souvent SOS Médecins ou d'autres structures qui permettent de structurer un accueil ambulatoire 24 sur 24, mais c'est pas vrai dans d'autres
avec
territoires.
Avec des visites à domicile.
Et donc
en fait,
les zones de fragilité se concrétisent cette année par, en effet, plus encore que les années précédentes, des services d'urgence qui sont à éclipse, des SMUR aussi qui ne sont pas tenus certaines nuits, ce qui fait que ce sont des SMUR d'autres établissements qui se déplacent avec des durées d'intervention qui sont un peu plus longues, mais surtout qui font que les gros centres vont avoir, en fait, dans le service d'urgence, plus qu'un seul urgentiste, parce que le service primaire de SMUR sera mobilisé pour aller sur différents territoires éloignés de sa zone de départ. Donc oui, nous avons, hors même la reprise de la quatrième vague du Covid, un été plus difficile encore que les autres années.
Et chez vous, ça se traduit comment, par exemple ?
Eh ben, ça se traduit par, notamment par, donc je dirige plusieurs établissements, donc oui. L'établissement qui est dit de recours, qui est quand même relativement solide, avec sur 18 ou 20 emplois d'urgentistes au tableau des emplois de l'hôpital, les 3/4 qui sont assurés encore par des praticiens hospitaliers, qui sont en fait les vraies colonnes vertébrales de l'hôpital public. Dans ces hôpitaux-là, on parvient à maintenir, je dirais, une offre tout à fait satisfaisante et qualitative pour la population. Dans les établissements où le directeur recrute pour 24 heures un urgentiste qu'il ne connaît pas, eh ben il y a un risque de rupture de continuité. Ça arrive dans un autre établissement que je dirige où là c'est le SMUR qui ne fonctionne pas pendant 24 heures. Et par conséquent, vous avez une offre globale sur un territoire qui se restreint.
Vous voulez dire pas d'urgence pendant
24 heures.
Vous avez
en pleine reprise de l'épidémie des structures de type intermédiaire qui sont pas la réanimation mais qui sont les unités de soins continus, qui sont fermés sur le territoire de la Saintonge, à Cognac, à Jonzac. Ce sont des villes de 8-10 000 habitants, mais ces 5-6 lits-là qui manquent vont avoir un impact sur la réanimation de l'hôpital de recours.
Et sur la question des lits, justement, on a un appel de Patrice qui nous a appelé de Caen. Bienvenue sur France Inter, Patrice.
Bonsoir, France Inter.
Bonsoir.
Alors la question est toute simple. Est-ce que le gouvernement continue à supprimer des lits dans les hôpitaux ?
Eh bien, on va poser la question peut-être à Denis Bettan, de la CGT.
Eh bien, la réponse est oui. Alors que contrairement à ce qui avait été annoncé pendant la crise du Covid où les fermetures de lits devaient s'arrêter, à titre d'information, entre 2003 et 2017, il y a eu 69 000 places d'hospitalisation et de lits qui ont été supprimées depuis, et ça c'est pas la CGT qui le dit, hein, c'est la DRES, hein, c'est la direction de recherche, d'études et d'évaluation des statistiques qui est en lien directement avec le ministère de la Santé. Et pendant justement les derniers mois et les dernières années, notamment de notre président Macron, il y a 4172 lits qui ont continué d'être fermés. Donc on voit l'impact que ça a, et c'est exactement ce que peut ressentir la population, ce qu'elle ressent aussi les soignants, qui eux ont une souffrance éthique de pouvoir mal faire leur travail, puisque la problématique des urgences, comme elle a été expliquée là, c'est pas que la problématique des urgences, c'est le miroir grossissant de tout le secteur. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est des lits en aval qui obstruent complètement le fonctionnement des urgences, avec des désorganisations, alors par manque de moyens et par manque d'effectifs. Et donc, normalement, ce qui avait été dit, alors que les restructurations devaient s'arrêter, ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières réformes depuis 20 ans ont complètement mis à mal notre système de santé. Et on voit que la moindre pic d'activité, mais ça, c'est pas que de Covid, hein. Le Covid, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a mis en exergue.
Oui, créer un pic d'activité
qu'on ne peut plus gérer parce que tout est en flux tendu. Les restructurations et le lean management qui est fait dans les hôpitaux depuis des années amène non seulement une...
Le lean management, on explique peut-être hyper spécialisation de chacun
C'est surtout, on lisse tout et on ne fait pas de temps mort, flux tendu, et le lean management dans les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle le new public management, c'est la fermeture des lits, puisqu'on manage avec des indicateurs et on manage plus en fonction des besoins de la population. C'est-à-dire qu'on a un directeur, mais là on a un directeur qui est à l'antenne aussi, il manage avec des indicateurs en fonction de la file active et du nombre d'activités qu'il a, et il a un un projet, un EPRD, comme on appelle, voilà, pour son budget. Et il y a une tarification à l'acte et à l'activité. Alors là, c'est un peu technique. Mais plutôt que d'avoir les moyens pour fonctionner, dire on part des besoins et on demande les moyens, là, on contraint le budget et il faut que les directeurs qui sont des gestionnaires doivent arriver à rentrer dans ces budgets-là. Mais ceux qui sont dans la réalité du travail, le soin, eh ben, ils se retrouvent démunis en matériel ou en absence de moyens avec des lits fermés, puisque la fermeture de lits. Et on voit que cette problématique-là qui perdure et qui s'accentue, et là, c'est quand même problématique dans notre société actuelle, devrait s'arrêter immédiatement. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus aucune restructuration des hôpitaux, ni de fusion, ni de fermeture de lits, déjà actuellement. Et ce que on a besoin de fonctionner par rapport à ça, c'est on a besoin de moyens et en effectifs supplémentaires, parce qu'on le voit que les SMUR ne fonctionnent pas. Un SMUR, c'est un service mobile d'urgence et de réanimation. C'est-à-dire que c'est le service qui sort de l'hôpital pour aller vous soigner en urgence, soit à l'extérieur, soit chez vous. Vous vous rendez compte qu'on est dans notre société actuellement, que ces SMUR-là, ils ferment par faute d'effectifs, parce que les personnels, et là, c'est quand même, faut savoir que depuis des années, on n'arrive pas, il y avait déjà... J'avais déjà des suicides, des burn-out dans les hôpitaux avant la crise. Mais il faut voir comment la souffrance éthique des soignants peut être mise à mal par rapport à ça. Il ne faut pas s'étonner que, malheureusement, par rapport au Ségur, on croyait qu'on allait avoir une réactivité et qu'on allait rendre attractif l'hôpital. C'est ce qui se passe, c'est le contraire. Et les moyens, les personnels, infirmiers ou médecins, fuient l'hôpital et on se retrouve en problématique de fonctionnement.
Je vous ai signé Denis Bétan parce que Fabrice Le Burg, donc, qui dirige les hôpitaux en Charente-Maritime, voulait réagir. Fabrice Le Burg, moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est que un des projets du Ségur, c'était des ouvertures de lits en fonction des besoins. On disait 4000 ouvertures de lits en fonction des besoins. C'est pas ce qui se passe, en fait ?
Pour faire fonctionner des lits, il faut des professionnels. Donc, si vous voulez, par rapport à ce qui a été dit, certes, il y a des lits qui ont été fermés dans les hôpitaux sur les 15 dernières années, mais les prises en charge ont considérablement évolué. Là-dessus, vous comprenez bien qu'on peut pas non plus dimensionner un système hospitalier sur une crise qu'on pouvait, à la limite, pas imaginer, même si beaucoup de gens nous l'annonçaient parmi les infectiologues. Actuellement, je vois bien ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas d'écart entre la volonté politique affichée par le gouvernement et la réalité. On ne me demande pas, la tutelle ne me demande pas de fermer des lits. Simplement, je suis amené à le faire, soit pour privilégier la gestion de la crise, et donc on va réduire le nombre de lits de chirurgie de l'hôpital, freiner l'activité chirurgicale, pour redéployer des ressources vers la réanimation ou vers les unités Covid, ce qu'on est déjà obligé de faire avec le redémarrage de cette quatrième vague au cœur de l'été. Hein,
vous le faites à l'heure actuelle dans vos établissements ?
Oui, l'hôpital de Sainte, c'est 7 blocs normalement qui fonctionnent. Il y en a 3 qui fonctionnent cet été parce que il faut qu'on redéploie nos ressources qui sont limitées vers une résurgence de l'épidémie. Et donc, il faut le faire avec la même réactivité qu'on l'a fait, même peut-être même plus vite. Parce que c'est vrai que ça va assez vite avec le variant Delta et que la Charente-Maritime, qui a été préservée, contrairement à Sarreguemines, où travaille Emmanuel Léris, en première vague, on est un peu en tête de quatrième vague. Donc, en ce moment, je peux vous le dire, on n'a aucune consigne. On est les PRE, les CREF, tous ces vocabulaires financiers sont suspendus. Les plans de retour à l'équilibre, les contrats de retour à l'équilibre financier.
C'est le quoi qu'il en coûte à l'hôpital, en clair.
Depuis un an, on n'en parle plus.
L'État vous soutient quoi qu'il en coûte.
Oui, on est sur une logique d'efficacité.
Jusqu'à la fin de l'année, en tout cas.
On essaye de refaire fonctionner au mieux le service public hospitalier avec les ressources limitées qu'on a. On n'est plus sur une logique d'efficience, chose qui a été, c'est vrai, demandée par les pouvoirs publics à l'hôpital pendant plusieurs années sur les différentes législatures des 15 dernières années.
Magali nous appelé France Inter de Besançon, mais Magali n'est pas encore complètement en ligne. On la retrouvera peut-être tout à l'heure. Alors je vais poser la question à Emmanuel Séris. Finalement, le problème, c'est le nombre de lits ou c'est un problème de vocation chez les soignants ?
Alors, je suis heureuse que vous posiez cette question. En fait, il y a l'historique qui, je pense, est très important à rappeler. L'historique, c'est en fait la caisse active du service public et de l'accès aux soins par des politiques néolibérales au cours des 15 ou 20 dernières années. Et donc, c'est cette caisse active qui a créé une crise motivationnelle chez les soignants.
Ça c'est l'analyse
c'est dans ce sens-là que
des
ça
urgences
se passe.
De France. Hein, de
tout à fait, mais tout à fait, mais je l'assume parfaitement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de fermer les lits, avec pour objectif l'efficacité, on se retrouve avec de toute façon des patients sur des brancards qui sont soignés dans les urgences par exemple, ce qui augmente la mortalité et aggrave les pathologies, c'est évident, puisqu'on ne peut pas soigner de la même manière dans un service de soins qui est dédié à une pathologie spécifique que dans un couloir aux urgences, où en plus on accueille le flux des urgences. Et donc, en fait, l'hôpital public est complètement à l'os, c'est-à-dire qu'il y a eu ces fermetures de lits, il y a eu un gros problème d'attractivité au niveau des professionnels de santé, parce que les conditions de travail se sont dégradées de manière monumentale au cours de ces dernières années, que nous crions, nous ne savons plus comment l'exprimer, nous ne sommes pas en train de pleurer, nous alertons la population sur le fait que quand ils élisent leurs représentants locaux, leurs représentants nationaux, ça doit faire partie des priorités de demander des modifications concernant la politique de santé générale. Et donc, le fait qu'il y ait des départs de professionnels de santé et de dire que maintenant, on ferme des lits à cause de ces départs, je pense que c'est presque un peu ironique de prendre le problème dans le sens là. Je pense qu'il faut vraiment rappeler l'historique. Il y a eu une casse du système de santé, une dégradation des conditions de travail des soignants qui, effectivement, sont complètement désespérés parce que à chaque poste, ils se disent qu'ils sont maltraitants malgré eux, du fait, finalement, des conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles.
Donc, attendez, je vous arrête, mais c'est pas une question d'argent. C'est pas une question, parce qu'il y a eu des augmentations avec le Ségur de la Santé. Il y a eu 183 euros mensuels, je crois, d'augmentation pour 2 millions de soignants. Il va y en avoir encore un peu pour les paramédicaux. C'est pas ça le problème.
Il y a aussi ça comme problème, bien entendu. Quand vous voyez que les paramédicaux peuvent être recrutés sur des CDD renouvelables tous les 3 mois pendant 2 ans, vous comprenez bien que quand on leur propose un CDI dans d'autres établissements privés, forcément, il faut faire le choix du privé, par exemple, ou des maisons de retraite. Enfin, c'est une évidence. Quand vous arrivez à 22 ans à devoir demander une caution à vos parents pour louer un appartement, alors que vous êtes soignant dans l'hôpital public, faut quand même se poser la question de dire d'où vient l'attractivité. Enfin, je pense qu'il y a des mesures qui sont évidentes à prendre. Alors, effectivement, il y a eu des augmentations de salaire, mais c'est absolument pas en rapport avec la dégradation des conditions de travail qu'on voit depuis une vingtaine d'années. Ce que nous demandons, c'est à la fois, effectivement, des augmentations de salaire en rapport avec la charge de travail qui est la nôtre, puisque, effectivement, consécutivement à cette dégradation des conditions de travail, les gens fuient l'hôpital public, donc on est beaucoup moins nombreux pour gérer une tâche qui est de plus en plus lourde. Incombe beaucoup de choses à l'hôpital public, incombe également la faillite de la médecine générale à l'heure actuelle du fait des effectifs, puisque il y a de moins en moins de médecins généralistes. Alors dans les zones rurales et semi-rurales, c'est criant depuis des années. Il y a quand même 20% des gens qui n'ont plus de médecins traitants déclarés dans les zones semi-rurales.
Il y a des fermetures aussi cet été,
dramatiques,
pas mal, hein, oui.
Mais faute d'effectifs de médecins généralistes. Donc il faut quand même se dire, et ça c'est en train d'arriver aussi sur les plus grandes agglomérations, il ne faut pas s'imaginer que les plus grandes agglomérations vont être épargnées. Donc inévitablement, sur quoi comptent les gens? C'est le service public. Dans le service d'urgence où j'exerce, la dernière garde où j'étais, je pense qu'une personne sur trois qui se présentait dans nos urgences s'excuser en premier lieu de venir en disant, voilà, je n'arrive pas à consulter un médecin traitant, j'ai rendez-vous dans les 10 jours, dans le mois qui vient. Je trouve que c'est vraiment dramatique. Et donc, effectivement, la mesure n'a pas été prise avec le Ségur de ce qui est encaissé à l'heure actuelle par l'hôpital public de faillite du système de santé, du crash sanitaire. Et donc, réellement, il faut un choc d'attractivité qui concerne, bien entendu, les salaires, mais pas que. Ça concerne également les conditions de travail. Ça concerne également la gouvernance hospitalière. Il faut rendre un pouvoir décisionnel aux soignants. Il faut vraiment qu'on puisse retrouver un pouvoir décisionnel sur notre quotidien pour retrouver un espoir dans l'avenir. Il faut, quand on demande d'augmenter les lits, c'est quelque chose d'absolument indispensable. C'est inadmissible de voir des personnes de 90 ans qui sont soignées dans un couloir aux urgences. Enfin, je veux dire, un animal, on ne traite pas comme ça. C'est complètement inadmissible. Donc on imagine bien la douleur que nous soignants pouvons ressentir quand on voit qu'on est obligé de soigner les gens dans ces conditions-là. C'est complètement inadmissible.
À ce sujet,
et quand on entend le virage ambulatoire n'est pas une solution.
Emmanuel Serris, à ce sujet, on va peut-être prendre l'appel de Magali qui nous appelle de Besançon. Bonsoir Magali.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter, c'est à vous.
Merci de prendre mon appel. Donc moi, je suis médecin généraliste dans un hôpital psychiatrique public. Il me tenait à cœur de parler un petit peu de la psychiatrie dans votre émission, qui est souvent une oubliée dans ce genre d'émission. La psychiatrie, la psychiatrie publique, elle est en lutte depuis 3 ans maintenant. Nous, dans notre hôpital, on a sorti un clip vidéo juste avant le Covid, en janvier 2020, qui s'appelle « La psychiatrie en détresse » sur YouTube, vous pouvez aller taper. Pour dénoncer
suite,
justement, pour dénoncer justement le manque de moyens et à ce moment-là aussi la privatisation d'une partie de la psychiatrie dans le département du Jura.
Et la question des vocations, alors c'est ça que vous disiez au standard avant d'être...
Oui. Donc c'est vrai qu'en psychiatrie, on a aussi une crise des vocations des psychiatres, hein, avec des injonctions qui sont de plus en plus contradictoires. Garder les fous qui sont potentiellement dangereux à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi accumuler la paperasse pour justifier du moindre fait et geste des psychiatres. Et puis aussi le manque de moyens infirmiers, parce que si parfois en psychiatrie, et ce qui est fait en dernier recours, on est obligé d'attacher les gens, c'est surtout parce qu'on manque de personnel pour apaiser les situations. Quand on se retrouve avec 3 soignants pour 25 patients psy, c'est largement insuffisant. On peut pas travailler dans ces conditions, on peut pas les amener faire des examens, on peut pas les prendre en entretien. On fait du gardiennage et la tension monte, et on l'a bien vu pendant le Covid, où on a été d'ailleurs assez démunis, puisque on a été les oubliés des recommandations de prise en charge de nos patients. On n'avait aucune recommandation pour prendre en charge nos patients, donc on s'est débrouillé, mais donc voilà, moi ça me tenait à cœur de parler de la psychiatrie ce soir dans votre émission qui est souvent une oubliée. Et effectivement, nous on a des médecins qui...
On en parle aussi de la psychiatrie sur France Inter, hein, quand même.
Oui, de temps en temps, j'entends. On a des médecins qui se retrouvent à faire des consultations sur 3 sites différents parce qu'il n'y a pas de médecin. La pédopsychiatrie, on n'en parle pas. Et là, avec le Covid, c'est criant. C'est criant, le manque de pédopsychiatres. Et puis encore une fois, nos patients sont très éloignés du soin. Donc du soin psychiatrique de par la pénurie, mais surtout du soin en général. Par exemple, nous, en tant que médecins généralistes, on est souvent les seuls médecins qui voient depuis des années. Donc on reprend des situations terribles. Ce sont des patients qui sont éloignés du soin, de la vaccination, et qui sont stigmatisés vraiment dans la population, qui sont considérés comme violents, etc.
Merci pour votre témoignage, Magali. Je me tourne vers Denis Bétan de la CGT. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça, ou à la fois des endroits géographiques ou des secteurs comme la psychiatrie, qui sont moins servis, mieux servis que d'autres? Il y a une cartographie de ces secteurs qui sont plus ou moins touchés par les suppressions de postes ou les restructurations?
Non, c'est l'ensemble du système qui est touché par les suppressions de postes et la restructuration. On l'a expliqué tout à l'heure par rapport aux différentes lois et réformes qui sont appliquées. Et l'ensemble des réformes s'appliquent sur l'ensemble du champ. Que ce soit public, privé, alors avec...
Privé est concerné aussi.
Et oui, quand il y a la loi HPST, le privé, il est concerné aussi. Les personnels qui travaillent dans le privé sont concernés aussi. Là, ils étaient moins impactés par le Covid, puisque c'était privilégié sur le public. Mais madame l'explique très bien. La crise des soignants, que ce soit médicaux ou paramédicaux dans la psychiatrie, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens, parce que le soin en psychiatrie, elle l'a bien dit, c'est de l'accompagnement, c'est de la présence, c'est aussi du soin individuel. Là, quand on protocolise tout, on procédure tout, c'est-à-dire qu'il y a une perte de sens au travail.
Donc si je vous entends, c'est même pas une question d'argent, c'est une question d'organisation.
Si, c'est une question de moyens. Parce que, non, une question d'organisation, ça c'est quand on entend nos ministres qui disent c'est une question d'organisation dans les hôpitaux. Non, c'est une question de moyens. La loi sur le PLFSS qui est votée au mois de septembre, à chaque fois, elle n'est pas à la hauteur des besoins de l'ensemble du champ du secteur, que ce soit sanitaire, médico-social, social. Bon, dans le sanitaire, il y a forcément de la psychiatrie. Et la psychiatrie, elle est visée aussi par rapport à... dit madame, c'est quand on est obligé d'attacher des patients, vous rendez compte, le soin, alors qu'on devrait les accompagner, d'avoir des moyens en personnel, si vous êtes 3 dans un service, alors que vous devriez être 5 ou 6 à ce moment-là, eh ben le soin, il n'est pas le même. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir avec un patient dans un service fermé, vous ne l'accompagnez pas dans le secteur de l'hôpital, vous ne faites pas de soins particuliers, vous êtes obligé de l'attacher parce que ça, c'est pas du soin, c'est l'aspect sécuritaire. Voilà un exemple criant dans la psychiatrie par rapport à ça. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des secteurs? Moi, je vous dis, plus ou moins, mais c'est depuis des années. Quand on a dit le Ségur va tout régler, non, les 183 euros, ils n'ont pas tout réglé. 183 euros pour un soignant
par mois,
c'est le gel du point d'indice dans la fonction publique, il est gelé.
C'est le rattrapage, vous voulez dire, de ce qui a été perdu.
C'est même pas le rattrapage. Le rattrapage, il aurait été au minimum de 300 euros. Au minimum de 300 euros. Une infirmière, en début de carrière, elle touche 1750 euros. Le Ségur nous a fait passer de la 26e place pour les personnels de santé de l'ECDE, de la 28e, pardon, à la 18e, après le Ségur, 18e place. Comment voulez-vous qu'il y ait des personnels qui soient en attractivité? Mais je pense que le plus important, que ce soit en psychiatrie, que ce soit dans le sanitaire, dans le médico-social, dans les EHPAD ou dans le social, et les 183 euros, je me permets une petite parenthèse, les personnels du social ne l'ont pas. C'est-à-dire que l'ensemble du champ a été divisé, c'est-à-dire que ça a été cloisonné. Ça, oui. C'est complètement inadmissible.
Il va y avoir de nouvelles revalorisations.
Ouais, c'est ensuite, ce qu'on nous dit à chaque fois, mais les nouvelles revalorisations, il faudra que vous alliez travailler jusqu'à 67 ou 68 ans pour avoir un peu une petite évaluation quand les personnels vont s'apercevoir des grilles du Ségur, ils vont déchanter. Et qu'est-ce qu'a fait le Ségur en même temps? Il a analysé le temps de travail et a diminué le temps de récupération de 12 heures entre 12, maintenant c'est 11 heures. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé les 12h, 12h30 à l'hôpital. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une fatigue chronique physique qui s'accentue chez les personnels qui eux-mêmes demandent, ils sont tellement mal au travail, qu'ils demandent à faire les 12 heures pour leur qualité de vie à l'extérieur. C'est-à-dire que moins ils vont à l'hôpital, plus ils sont contents. Mais sauf que les risques d'urgence, enfin les risques d'accident au bout de la 9e heure de travail sont complètement accentués. Et d'autant plus que cette fatigue-là, vous la ramenez chez vous. Vous n'êtes pas bien quand vous sortez, vous travaillez 12 heures, le lendemain vous travaillez 12 heures. Et l'annualisation du temps de travail va permettre, tenez-vous bien, à ce qu'il y ait des personnels qui travaillent 7 ou 8 jours de 12 heures de suite avec l'annualisation du temps de travail. Mais c'est quelque chose qui va encore accentuer le manque d'activité, une fatigue chronique. Ça fait quoi? Absentéisme, arrêt maladie, perte de sens au travail parce qu'on est fatigué, perte de sens de la qualité de vie personnelle, c'est-à-dire que cette fatigue-là, vous la ramenez chez vous, et comme vous êtes tendu toute la journée, vous avez des problèmes de sommeil, vous avez des problèmes d'alimentation, vous avez des problèmes psychologiques.
Donc les soignants sont en mauvaise santé.
Ah oui, on est les premiers pourvoyeurs de maladies professionnelles et d'accidents de travail avant le bâtiment. On est les premiers pourvoyeurs en ATMP, c'est-à-dire maladies professionnelles et accidents de travail, toutes secteur confondu. Je pense que ça, il faut que la population le sache. Quand on a des soignants, et quand je dis soignants, c'est l'ensemble du secteur, parce qu'il n'y a pas que les soignants à l'hôpital. Il y a des administratifs, des médico-techniques. Un hôpital, ça ne fonctionne pas qu'avec des médecins, des infirmières. C'est l'ensemble. Il y a 270 métiers à l'hôpital, il faut le savoir. Et c'est quelque chose que si chacun donne, enfin, c'est pas si chacun, c'est chacun donne une part de lui-même pour arriver à faire, comme ça a été dit, on est beaucoup plus que limite. Et là on n'est plus en limite, on est en train de s'effondrer. Et si rien n'est fait, si les moyens ne sont pas donnés, le système, je le dis comme on le pense à la CGT, il s'effondre. Et c'est ce qui est en train de se passer. La fermeture des services de SMUR et des services d'urgence, je vous dis, c'est un miroir grossissant de l'ensemble du secteur. Si tout le monde n'en prend pas conscience, eh ben voilà où on va être complètement une catastrophe.
Nathalie, justement, nous appelle à ce sujet à France Inter. Nathalie, je suis désolée, je vais vous demander d'être brève parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir appelé. Alors vous, c'est plutôt un coup de gueule, hein?
Oui, très en colère. C'est juste parce que moi je suis infirmière à domicile, j'ai pris un stage des élèves infirmières, donc une jeune qui a réussi son diplôme, qui a été embauchée dans une école, dans une clinique privée, elle a été embauchée à 1600 euros net
par mois,
pour après le bac, 3 ans d'études, et avoir un week-end de travail par mois, de travailler en plus. Parce qu'il faut penser que les week-ends, on est là aussi.
En plus du reste, donc.
Voilà, en plus du reste. Hein. Et à l'hôpital, elles font des heures de 6h, 14h ou 22h, 14h, 22h ou 20h. Mais voilà quoi, je suis très très en colère. Et il faut penser qu'avant l'hôpital, il y a le domicile aussi. Les gens vont à domicile, on envoie des gens à maison de santé d'urgence ou aux urgences, parce qu'on n'a pas de médecin à domicile. Hein. Donc on encombre les urgences pour des petits bobos, des angines, où on n'a pas d'antibiotiques, on ne peut pas prescrire. Donc il faut envoyer au médecin. Donc
merci.
Ça engorge les urgences. Voilà.
Merci Nathalie pour ce coup de gueule. Fabrice Leburg, vous dirigez des hôpitaux. Dans ce contexte, comment on fait pour attirer des gens, effectivement? Alors on parlait des rémunérations et aussi des problèmes de vocation. Vous faites comment, vous?
On va pas résoudre 15 ans de difficultés hospitalières avec quelques mois. Ça fait un an pour le Ségur. Bon, le Ségur, c'est pas rien. Je crois que ça a été dit. On a des personnels qui ont un salaire modeste. Le Ségur, ça représente 10 à 15% d'augmentation. Il y aura aussi un revenu différé avec la retraite. Il y a un certain nombre de grilles qui vont évoluer. Après, ce qui est aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le marché du travail hospitalier est devenu de plus en plus inégalitaire depuis 15 ans. Le directeur n'hésite pas à payer très cher certains médecins pour venir, parce qu'il faut absolument maintenir l'offre de soins sur un territoire, et parfois d'ailleurs en dehors des textes réglementaires que son métier lui demande de respecter.
Et ça, ça doit être encadré par le Ségur aussi.
Oui, mais la conséquence est très simple, c'est que ça d'ailleurs c'est pas forcément tout à fait écrit, il faudra le travailler aussi sur les territoires avec les élus locaux. Si certaines rémunérations retrouvent le lit réglementaire, ça accentuera la disparition d'un certain nombre de services publics dans les territoires les plus inattractifs. Parce que l'attractivité, c'est pas quelque chose en valeur absolue, c'est par comparaison. Et aujourd'hui, dans un moment où il manque de personnel dans à peu près toutes les institutions, les grands CHU, les CH de recours, les CH de proximité, le médico-social, les cliniques, finalement, on est tous en concurrence. Et ce que je voulais dire, c'est que le Ségur ne s'applique pas à toute une catégorie de personnel qui sont les contractuels, qui sont dans les hôpitaux, en fait, qui attendent très longtemps leur nomination. Et une des politiques qu'on va devoir réinventer localement, parce qu'il faut bien savoir qu'en fait, aujourd'hui, les budgets hospitaliers sont donnés par, finalement, le fait qu'on ait des médecins qui produisent l'activité. Ça a été dit tout à l'heure, en tout cas pour le secteur sanitaire. Et donc, les territoires où, finalement, il y a peu de médecins qui s'installent, ont aussi peu de ressources. On peut avoir une représentation nationale qui vote 2% d'évolution du budget. S'il y a des postes vacants médicaux, il n'y aura pas de ressources dans l'hôpital. Et en fait, cet hôpital-là va avoir une politique sociale qui va l'entraîner vers un cercle vicieux où il y aura encore moins de possibilités d'attirer des professionnels.
On arrive à la fin, Fabrice Leburg.
Il y a des territoires qu'il faut sortir du cercle vicieux.
Juste une question, vous répondez par oui ou par non. Est-ce qu'on a déjà eu des démissions de soignants chez vous après annonce de l'obligation vaccinale, oui ou non?
Non.
Non. Bon, merci beaucoup. Merci Fabrice Leburg, directeur de centre hospitalier. Merci Emmanuel Séris, chef du service des urgences des hôpitaux de Sarreguemines-Bitche en Moselle. Merci Denis Bétan de la CGT. Merci à tous de nous avoir répondu sur France Inter. Merci à France Bleu Lorraine Nord et à France Bleu La Rochelle pour avoir assuré la liaison. Merci aux standardistes, à ceux qui ont préparé cette émission. Pierre de Certaines, Zoé Fauché et Adèle Domas. Merci enfin, last but not least, à Ludovic Asselot et Nicolas Delmas à la technique ce soir.